Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
On prend rien à la légère, tout peut être une menace, tout peut être déguisé. La bulle de sécurité du convoi, on essaie de la maintenir hermétique.
Et c'est un déplacement de convoi militaire dans le désert que vous allez assister dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Un immense convoi logistique, celui de l'opération Barkhane dans le Sahel. 4500 soldats français sont encore là. Et vous allez voir que faire 210 km à peine peut prendre des heures ou des jours. Sous les radars, et Florence Paracolos avec une émission de télé en Tunisie qui fait polémique parce qu'elle suggère de collaborer avec Israël. Et puis, on vous racontera donc l'histoire de ses parents aux États-Unis qui veulent tellement faire partir leur fils du domicile qu'ils le font avec la justice. 18h50, le cinéma en VO. Corinne Pellissier a vu le Solo, nouveau Star Wars, et son ami Chewbacca. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four en Amérique du Sud qui vire à droite ou pas, alors d'élection en élection. Mais avant et d'abord, on parle protection des données en Europe avec Eva Joly. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Mark Zuckerberg et d'autres donc sont à Paris aujourd'hui, même à l'Élysée, il y était en tout cas pour le déjeuner. Après, pour le patron de Facebook, un passage par Bruxelles, une audition un peu frustrante pour beaucoup de députés présents, et on va y venir, mais importante puisqu'on est à deux jours de l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui fait de l'Europe un groupe de pays peut-être en avance dans sa lutte pour la protection des données. Mais jusqu'à quel point, et surtout pour convaincre qui? Bonsoir Eva Joly.
Bonsoir.
Députée européenne Eva Joly, merci d'être avec nous chez Les Verts européens, bien sûr. Vous êtes membre de la Commission des libertés civiles du Parlement. Ce RGPD, vous le connaissez bien, vous y avez contribué. D'abord, vous auriez aimé, j'imagine, hier, une meilleure confrontation avec le patron de Facebook, Eva Joly. Elle n'a pas eu lieu. Il y a une pointe de frustration ou pas?
Absolument, parce que cette audition a été détournée en réalité de son objet par le président du Parlement, malheureusement par Monsieur Tajani, qui l'a réservé uniquement au président de groupe, et nous avons eu le droit d'y assister que par télévision interposée. Et surtout, la façon dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire il n'y a pas eu question-réponse, un peu de ping-pong avec Mark Zuckerberg, il a eu droit de s'exprimer sans être interrompu. Puis les députés ont posé leurs questions et il a répondu à la fin, ou plus exactement, il n'a pas répondu aux questions très précises posées.
Si vous aviez pu, qu'est-ce que vous lui auriez demandé très directement à Mark Zuckerberg?
S'il serait possible à partir du 25 mai de cocher une case sur Facebook pour ne pas recevoir de publicité, par exemple.
Parce que c'est la question que j'allais vous poser pour poursuivre, Eva Joly. Le RGPD, donc Règlement Général sur la Protection des Données, il entre en vigueur vendredi. Est-ce qu'on est sûr qu'il sera appliqué par Facebook? Comment on peut s'assurer qu'on y en tiendra compte ou pas du tout du côté des grands comme Facebook, comme Google, comme tous les autres?
Il faut d'abord se rendre compte que c'est la première régulation au monde qui cherche à protéger les consommateurs et cherche à protéger les données personnelles. Donc, il ne règle peut-être pas tous les problèmes partout dans le monde, mais il en règle énormément. Ce qui est très nouveau, c'est que vous devenez vraiment propriétaire de vos données et les entreprises deviennent responsables de l'usage qu'ils en font. Donc, Facebook, par exemple, ne peut plus se cacher derrière Cambridge Analytica pour dire « c'est pas de notre faute ». Parce que dorénavant, il faut un consentement express, à des termes clairs de l'individu pour consentir à ce que ses données personnelles soient transmises à Cambridge Analytica. Et ça, Facebook, évidemment, ne l'a jamais fait. Les données personnelles ont été aspirées et donc maintenant Facebook en devient responsable. Et il doit informer aussi les citoyens s'il est hacké ou s'il y a un accident. Il en est responsable et ça veut dire qu'il peut être condamné à des indemnités très fortes qui peuvent égaler donc 4% du chiffre d'affaires. Et donc pour Facebook, cela est à 1,6 milliard. Vous voyez, ce qui est donc l'enjeu est énorme.
Alors, ce qui est beaucoup, on va y revenir. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce règlement général sur la protection de données. Il y a ce que vous dites. Il y a aussi l'idée de la portabilité des données. Ça veut dire, en gros, qu'on part avec nos données pour que les gens aient une image. C'est comme si vous aviez votre donnée dans un sac à dos. Vous allez d'une pièce à l'autre. Vous partez avec votre sac à dos, vos données à l'intérieur, et vous ne les laissez pas courir dans des endroits dont vous ignorez à peu près tout. Vous le disiez, les entreprises sont tenues pour responsables. Et puis il y a un consentement effectivement à donner pour ce qu'on fait de nos données. Mais là encore, j'ai la même question. On a vu par exemple que Apple faisait des efforts dans ce sens-là, un certain nombre d'efforts, en tout cas en disant très bien, nous on veut bien suivre ce que disent les Européens, c'est finalement pas si idiot que ça. On a vu Facebook en revanche qui sort de son siège qui est en Irlande tous les utilisateurs qui ne sont pas européens. Ça veut dire qu'est-ce qu'on n'est pas déjà en train de détourner ce que vous demandez depuis le Parlement européen ?
Si vous voulez, c'est très classique. Mm-hmm. Ils le voient, c'est le jeu du gendarme et du voleur. Quoi. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de contourner. Mais c'est à nous de faire respecter cette réglementation. Toutes les entreprises qui opèrent au sein de l'Union européenne, peu importe où ils sont implantés, s'ils sont une plateforme en Europe, ils sont tenus d'appliquer cette nouvelle régulation, donc qui est très puissante et très protecteur des citoyens.
Mais est-ce qu'on saura... Évangélie, pardonnez-moi. Oui, est-ce qu'on saura avant qu'il se passe quelque chose comme Cambridge Analytica, en fait, désormais ?
Alors, on ne peut pas tout demander à un texte, mais ce texte donne déjà beaucoup. Et donc, c'est des pouvoirs de sanction en cas de non-respect. Et ce pouvoir de sanction est donné à tous les pays européens à l'autorité de contrôle. En France, c'est la CNIL. Et donc, elle a une nouvelle responsabilité. Elle avait déjà le contrôle de nos données, mais maintenant, elle a aussi ce pouvoir de sanction très puissante. Simplement, la directrice de la CNIL, Madame Isabelle Folk-Peyrotin, demande des fonds supplémentaires pour exercer cette tâche. Clairement, la CNIL, dans l'état actuel de son effectif et de ses moyens, ne pourra pas faire face. Donc, il faut absolument que le gouvernement prévoie dans son prochain budget des allocations importantes pour la CNIL.
Ça veut dire quoi en termes d'argent ? Est-ce que ça s'est calculé, ça, pour la CNIL, pour que ça puisse être efficace ?
Alors, moi, je n'ai pas fait le calcul, vous le dire. Mais donc, c'est un personnel, donc c'est des personnels qualifiés. Ils en font des dizaines, donc c'est quand même en centaines, on peut penser, en tout cas en dizaines de millions d'euros.
Eva Joly, tous les grands acteurs de cette tech, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais tous ces grands acteurs-là sont à Paris aujourd'hui. Vous avez vu Mark Zuckerberg hier. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une certaine façon, il y a une sorte de cercle vertueux qui s'est mis en place, finalement, grâce à la catastrophe de Cambridge Analytica, et qu'ils sont prêts à avancer, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu quand même, à la fois en face de vous et aussi à Paris aujourd'hui et dans les mois qui viennent, des gens finalement très arrogants qui n'en ont à peu près rien à faire de ce qui se passe et de ce qu'on est en train de raconter nous en Europe? Est-ce qu'il y a un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place?
Moi, je pense que la régulation européenne va faire des petits parce que notamment l'utilisation des données des Européens aux États-Unis, tôt ou tard, ils vont devoir introduire les mêmes règles s'ils vont pouvoir exploiter nos données. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Mais il faut bien comprendre que Mark Zuckerberg, quand il répond aux questions des députés, il joue une grande partie de son chiffre d'affaires. Pour lui, il va rester très, très vague parce qu'il n'a pas envie de perdre 5 ou 10 milliards de sa valorisation boursière. Donc, il va s'y mettre, mais contraint et forcé.
Parce que d'une certaine façon, on a l'impression que désormais, et encore une fois, finalement, à son corps défendant et grâce à lui, mais c'est devenu presque tendance. Je citais Microsoft et Apple qui ont décidé de se mettre au goût du jour. Finalement, aujourd'hui, si on veut se faire entendre finalement des utilisateurs que nous sommes, et Dieu sait qu'on est nombreux, bah peut-être qu'il faut aller dans cette direction-là, et qui est la direction inverse de celle qui est en train de prendre Facebook.
Et on voit bien l'importance de l'Europe. On voit bien que ce n'est pas au niveau des États qu'on peut imposer une régulation pareille. Et c'est pareil pour la fiscalité. Et c'est pareil aussi dans les crises internationales. C'est vraiment l'Europe qui protège. Et il faut bien comprendre que c'est un énorme atout pour les citoyens. Et que cette régulation-là, c'est les Verts qui l'ont portée, c'est les Verts qui l'ont mis en place. Et nous avons pu créer une alliance au Parlement en raison du scandale à l'époque de Snowden, lorsqu'il est devenu évident pour tout le monde que la NSA collectait des métadonnées du monde entier. Et que Snowden a payé de sa liberté le fait de nous le faire savoir. Donc ça, c'était avant Cambridge Analytica. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience du danger des manipulations qui comprend l'exploitation effrénée de toutes les traces que nous laissons sur le net.
En quoi, selon vous, le RGPD nous permettra d'échapper aux fake news, à l'intrusion étrangère, comme ça a pu être le cas pendant la campagne américaine ou celle du Brexit? Est-ce qu'à un moment, les deux peuvent se marier, si je puis dire?
Alors, on voit bien que le RGPD va protéger de la manipulation directe, comme nous l'avons eu en Brexit, où on a envoyé des messages xénophobes qui renforçaient leur xénophobie en utilisant leurs données Facebook. Ça va être beaucoup plus difficile parce que donc la plateforme d'origine est responsable. Par contre, les fake news, c'est un tout autre problème. Et là, ce qu'il faut souhaiter, c'est une plus grande transparence et du personnel dédié au sein de plateformes pour traquer les fake news, pour supprimer les comptes qui sont fictifs. Mais il faut faire très attention parce que nous parlons aussi de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Donc, si on y va trop fort pour combattre les fake news, on combattra peut-être aussi notre liberté. Donc, vive la transparence et vive la responsabilité.
De chacun. Et comment garantir, Eva Joly, qu'il n'y aura pas de nouveaux scandales? Ça, pour le coup, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de nouveaux scandales. Les Cambridge Analytica qui apparaissent et qui disparaissent, il y en a tous les jours.
Oui, mais maintenant, il faudrait le consentement éclairé, le consentement donc clairement exprimé des citoyens pour que leurs données soient utilisées dans la campagne électorale américaine. Là, je vous rappelle, ils ont été volés sous prétexte de recherches scientifiques. Une chose, c'est de donner son accord pour que les données individuelles soient exploitées pour faire progresser la science, et l'autre a donné à manipuler les mécanismes même électoraux de nos pays amis.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sera la dernière question, Eva Joly. Nous, effectivement, pour que tout ça soit appliqué correctement, il faut qu'il y ait plus de moyens, notamment à la CNIL, mais on n'est pas tout seul.
Oui.
Et on n'est pas le seul pays, surtout, et j'ai l'impression qu'on est très inégaux aussi dans nos moyens, les uns et les autres, de lutter contre toutes ces dérives-là. Comment on fait si on n'a pas un système européen qui serait une espèce d'énorme CNIL européenne ou quelque chose dans ce goût-là, qui nous permettrait justement de travailler chacun sur le même niveau, où que l'on soit en Europe?
En tout cas, ce que le texte prévoit, ce que nous avons pu obtenir aussi dans nos trilogues, c'est la coordination de tous les CNIL européens. Donc, dorénavant, lorsqu'il y a un problème transnational, les CNIL vont coopérer et rendre l'action des citoyens beaucoup plus facile. Ce qui est prévu aussi, c'est l'action collective. Toutes les victimes de Cambridge Analytica pourraient se réunir pour faire une action à Facebook, vous voyez. Donc, ça, c'est on ne peut pas tout demander au texte, ça ne réglera pas l'ensemble des problèmes, mais ça en règle énormément, et c'est déjà ça.
Et c'est un début, vous le dites, Eva Joly, merci beaucoup. Le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur à partir du 25 mai, c'est pour ça les uns et les autres, du vendredi, c'est pour ça les uns et les autres que vous avez dû mettre à jour un certain nombre de choses que nous ont envoyées les Facebook, les sites, etc. C'est ça que ça veut dire. D'ici au 25 mai, on aura largement l'occasion d'en reparler d'un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde au Mali, dans un convoi logistique avec l'opération Barkhane. Ce sera avec Franck Cognard et vous allez voir jusqu'à quel point c'est impressionnant quand une armée entière est dans le désert. Florence Paracolos nous amène en Tunisie dans une émission de télé absolument incroyable et aux États-Unis aussi avec une sorte de Tanguy qui ne veut pas quitter le domicile de ses parents. Vous allez voir que ça se règle devant le tribunal. Le cinéma en VO avec Chewbacca et avec Solo. Le monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors l'Amérique du Sud a l'air de virer à droite. Eh bien pas du tout.
Eh bien peut-être que ce virage à droite est sur le point de s'achever avec un test très intéressant dans 3 jours, la présidentielle en Colombie, pays traditionnellement justement marqué à droite.
Et à tout de suite, le tour de la planète continue avec un détour chez les anglo-saxons. Tiens, Tom Misch et De La Soul, It Runs Through Me.
1, 2, 3, 4. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. Take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no, you with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the beat is mine, it will rock us through the night. And where I go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. Take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me.
Runs through me, nous dit Tom Misch sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie mon capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
France Paracuelos est là sous les radars. Florence, direction la Tunisie, pour commencer avec un programme télé qui met tout le monde très très mal à l'aise.
L'émission s'appelle Shalom. C'est une caméra cachée dont le principe est le suivant. Une personnalité tunisienne est contactée par de pseudo-représentants de l'ambassade israélienne. Ils vont lui proposer de coopérer, moyennant finance, avec l'ennemi juré du monde arabe. Voilà, vous noterez le bruit des pièces qui tombent comme dans une machine à sous dans cette bande-annonce. L'émission est diffusée tous les soirs sur une chaîne privée à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan. C'est là qu'il y a le plus de téléspectateurs. Dans le premier épisode, un sportif tunisien accepte d'entraîner une équipe israélienne pour 120 000 dollars. Dans le deuxième, c'est un député très anti-israélien qui dit ne pas avoir de problème avec Israël. À chaque fois, ils font face à une sorte d'archétype grimé de juifs orthodoxes entourés de molosses type agents du Mossad. Sur les réseaux, les internautes ont commencé par s'en prendre à ces collabos qui acceptent de frayer avec Israël, je mets évidemment beaucoup de guillemets. Ils sont en train de tourner Kazakh. Maintenant, ils dénoncent une émission de la honte. Le syndicat des journalistes tunisiens appelle à boycotter le programme qui n'a d'autre visée que de salir des personnalités sans aucune éthique. En fait, c'est la forme qui pose problème apparemment, plus que le fond, dans un pays où les militants des droits de l'homme réclament l'adoption d'une loi pour criminaliser la normalisation des relations avec Israël.
Beaucoup plus détendu, on va dire, Florence. On a retrouvé Tanguy, donc, celui qui veut pas quitter la maison des parents. Il vit aux États-Unis dans l'État de New York.
Ah oui, peinard chez son papa et sa maman. À Syracuse, Michael Rotondo voudrait bien y rester, mais eux non, parce que le petit Michael a bien grandi. C'est qu'il a 30 ans maintenant, ce grand chevelu barbu qui ressemble au Big Lebowski des frères Cohen.
C'est vrai.
Et il s'accroche tellement que ses parents sont allés jusqu'à la Cour suprême hier pour le faire partir, mutique sur le banc du tribunal, pendant que leur avocat de leur cause. Mes clients n'ont pas à se justifier. Rien ne les oblige à le garder chez eux. Il a largement dépassé les 21 ans. Et ils ont tout essayé, les Rotondo. Ils en ont parlé avec leur fils avant de passer à la méthode formelle des lettres restées sans
ils
suite,
ont écrit
les unes après les autres. Après en avoir discuté avec ta mère, nous avons décidé que tu devais partir. On te laisse 14 jours. Une autre, Michael Joseph Rotondo, tu es expulsé. Ils ont même proposé de l'argent pour qu'il parte, 1 100 $. Et cet encouragement, il y a des jobs sur le marché, même pour les gens qui ont des antécédents médiocres comme toi. Va travailler. À bout de nerfs, ils ont fini par porter l'affaire en justice. Il faut qu'ils partent maintenant. Mais hier, Michael a encore essayé d'obtenir du rab devant un juge de la Cour suprême, à l'air consterné. Je ne suis pas une charge pour eux. Ils ne font pas mes lessives, ni mes repas. Donc c'est juste un mouvement d'humeur de leur part de vouloir m'expulser. 6 mois me paraît un délai raisonnable pour pouvoir me retourner et m'assumer. Demande-t-il, demande rejeter. Le juge a signé l'ordre d'expulsion immédiate de Michael Rotondo, y allant lui aussi de son conseil. Il n'a qu'à trouver un Airbnb en attendant.
Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas autre nom pour les Tanguy. Je vous conseille la vidéo quand même sur internet c'est plutôt
il mérite
le détour, oui. Michael Rotondo. Allez, Florence Paracolos, merci. Merci Florence Paracolos. Bah non, pas de jingle. On fait sans jingle aujourd'hui. On est comme ça.
Ah, voilà. Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo, Beyrouth, France Inter.
Opération Barkhane, vous savez ce que c'est, forcément. Hein, 4 500 soldats français au Sahel depuis 4 ans. Une opération destinée à lutter contre les djihadistes dans cette partie du monde. On la sait, la difficulté, parce que la zone elle est immense. Les risques aussi sont très importants. Là où je vous emmène, 2 soldats français sont morts en février dernier. Bonsoir Franck Cognard.
Bonsoir Fabienne.
C'est vous qui nous emmenez d'ailleurs ce soir. Vous venez d'y passer du temps avec ces hommes. Vous allez nous emmener au cœur du réacteur, en gros, voir un peu comment cette machine est en mouvement dans cette immensité-là. C'est auprès des convoyeurs du désert que vous nous emmenez, une logistique en déplacement avec laquelle vous avez fait près de 210 km. Vous allez nous raconter tout ça. D'abord, je voudrais que vous nous expliquiez quand même, quand on parle de poids logistique, justement, ça veut dire quoi? Parce que ça a l'air énorme.
Ben là, c'est le détachement logistique qui est en ce moment en train de terminer son mandat Barkhane, c'est-à-dire son mandat de 4 mois, sa mission de 4 mois. Elle a transporté sur ces 4 mois 13 000 tonnes de matériel, de vivres, d'équipements, de tentes, etc. 13 000 tonnes, c'est plus que la Tour Eiffel. Elle a transporté parmi ces 13 000 tonnes 1 200 000 litres d'eau. Mmh. 1 200 000 litres d'eau parce que chaque soldat de Barkhane, en ce moment, dans un désert où il fait plus de 50 degrés le jour, où la température descend à peine en dessous de 40 la nuit, il faut boire à peu près 10 litres d'eau par jour pour rester en forme, entre guillemets. Tout ça avec évidemment un équipement qui pèse lourd, les 15 kilos du gilet pare-balles, le casque, etc. Et ces convoyeurs du désert, eux, ce sont à la fois des soldats comme les autres, c'est-à-dire qu'ils sont formés au combat, ils sont formés au tir, comme tous les soldats de Barkhane, mais effectivement, ils font pas de patrouille, ils font pas de contrôle de zone. Eux, ils sont vraiment là pour acheminer tout ce matériel depuis Gao à Kidal, à Tessalit ou à Ménaka, d'où on est parti avec ce convoi.
Ça fait combien de kilomètres un convoi de ce genre-là?
Alors, ce convoi-là, il comportait 50 véhicules, dont une quinzaine d'escortes, puisqu'il y a besoin d'une escorte pour protéger. Il y avait dedans des poids lourds, des porte-containers, etc. Il y avait un petit peu de véhicules civils aussi, qui étaient conduits par des pilotes tchadiens. Et ce convoi, quand il est étiré au maximum, c'est-à-dire avec 100 mètres d'espacement entre chaque véhicule, bah, il fait 5 kilomètres. Alors, il y a des moments où la zone se rétrécit un tout petit peu pour avoir plus de sécurité, mais ça dépend des moments.
Franck, la route entre Ménaka et Gao, vous disiez, c'est celle que vous avez faite quand vous y étiez. On l'appelle la route de la mort. Pourquoi la route de la mort?
Alors, c'est la RN20, son vrai nom, la route nationale 20, mais en fait, c'est pas du tout une route, hein, c'est une piste avec des bosses, des pierres, de la caillasse. Elle va de Ménaka à Ansongo, ça fait donc 210 km. On l'appelle la route de la mort parce que des soldats français y ont trouvé la mort, donc en février dernier, deux soldats du SPAI de Valence. Il y a aussi de nombreux civils maliens qui sont morts, tout ça à cause des IED placés par les hommes de l'État islamique au Grand Sahara, dont c'est la zone d'influence dans cette région qu'on appelle les trois frontières, Niger, Mali et Burkina Faso.
Allez, le voyage entre Ménaka et Gao, on écoute votre reportage. Franck, on se retrouve juste après.
Mon convoi à Doma. Convoi repos. Bonjour à tous. Je suis le chef de convoi. Mon indicatif, Sher Khan. Ces groupes armés terroristes, ils vont être rapidement renseignés sur nos mouvements. Vous avez dit que c'était des spécialistes de la pose IED. On va avoir de la mine.
Les IED, ce sont les mines artisanales. C'est le principal danger sur cette RN20 qui est en fait une piste de sable, de pierre, de bosse. L'itinéraire est ouvert par un drôle de tracteur, haut perché, qui pousse devant lui une sorte de herse. C'est une assurance vie commandée par le lieutenant Antoine.
Ça, c'est le SUVIM en fait. Hein. C'est notre véhicule phare de la section. Il va leurrer en véhicule, donc il va se comporter comme un véhicule et il va déclencher les engins explosifs en préservant totalement la vie du pilote. Puisque le pilote est plus en arrière, plus en hauteur. Donc voilà, c'est vraiment fait pour déclencher les différents engins explosifs qu'il pourrait y avoir sur l'itinéraire. Concrètement, le convoi est rassuré derrière nous, très rassuré de suivre nos traces.
8 heures de piste cassante et 90 km plus tard, c'est le Kandine Deliman, un mur d'enceinte, du sable et 50 degrés à l'ombre.
Vous n'avez pas perdu connaissance? Non, ça va. Donc vous prenez les constantes, hein, pour l'attention, l'influence cardiaque.
Le médecin consulte. Les mécanos auscultent.
Quand je me mets là, je l'entends là.
Bilan du jour avec le chef du convoi, le capitaine Alexandre.
On a fait un mouvement dans de très bonnes conditions, quelques incidents techniques, avec des pistes qui sont en mauvais état, très cabossées. Ça a occasionné énormément de contraintes techniques sur les châssis des véhicules, sur les pneumatiques aussi, puisque ce matin on a eu beaucoup de crevaisons.
À la nuit tombée, les convoyeurs délaissent les rations de combat et sortent les gamelles pour un repas amélioré, douche rapide à la bouteille. À 21h, tout le monde dort, sauf la garde. Vers minuit, réveil général, une tempête de sable s'est levée. C'est le seul incident notable pour le sergent Thibault qui a connu plus grave.
On a toujours des événements qui nous ont marqués. Sur Kidal, par exemple, des tirs de mortier.
Vous gardez le sourire malgré les coups durs, comme vous disiez?
Ah oui, pas le choix. Et de toute façon, il faut rester souriant, que ce soit pour nos mecs ou si tout le monde commence à tirer la gueule, on n'a pas fini.
5h du matin, le convoi reprend la piste, redémarrage des camions et des blindés de l'escorte du lieutenant Mathieu.
Donc il y a des éléments qui sont dans le convoi, il y a des éléments qui gravitent autour. On ne prend rien à la légère. Ça peut être le simple berger qui se promène à côté du convoi parce que sa maison n'est pas très loin. Ça peut être voilà, la moto, le camion qui passe. Tout peut être une menace, tout peut être déguisé. La bulle de sécurité du convoi, on essaie de la maintenir hermétique.
Un convoi, on sait quand ça part, mais jamais quand ça arrive, dicton de convoyeur. Pourtant, ce jour-là, après 12 heures de route, c'est le kilomètre 210, c'est-à-dire Gao, la base française. Ses douches et ses tentes climatisées après des heures dans des blindés où la température peut monter jusqu'à 70 degrés. Mais le lendemain, pas de grasse matinée, il faut décrasser, inspecter après 4 mois de mission, dont les deux tiers, évalue le sergent Thibault, passer à rouler.
Beaucoup de cas sur les véhicules et ça prend en général beaucoup de temps, voire souvent on ne voit plus les véhicules. Ils sont cassés. Savoir que c'est le dernier convoi, ça fait plaisir. Je vais pas mentir, on est toujours content de revenir et de se dire que le retour en France est tout proche.
En quelques adjectifs, le lieutenant Adrien résume ses 4 mois.
Rustique, beaucoup de sable. On a affronté pas mal de tempêtes de sable. Une mission assez dure. Ça a été compliqué pour le matériel et pour les hommes.
Deux convoyeurs ont sauté sur une mine il y a quelques semaines, sans gravité, leur blindage les a sauvés. Mes soldats n'ont pas été bons, ils ont été excellents, conclut le capitaine Alexandre en souriant. Pourtant, il y a eu les blessures, la chaleur, les ensablements et les casses.
Ça donne le sel du convoi, hein, le piquant. Même si à la fin, de toute façon, on retiendra plutôt que les bonnes choses. C'est normal.
Le Mali, c'est ça, c'est une aventure.
Ah oui, belle aventure, évidemment.
Allez, on redémarre dans le convoi de l'opération Barkhane. Franck Cognard, ça s'est bien passé donc au final pour ces soldats avec lesquels vous étiez. Moi, ce qui me frappe, Franck, quand on écoute votre reportage et ce que vous nous avez décrit, c'est que un tel déploiement de matériel, ça veut dire qu'on y est pour un bout de temps encore au Sahel.
Personne ne le dit officiellement, mais tout le monde le pense sur le terrain. La France est partie pour rester là-bas encore un petit bout de temps. Déjà parce que la force conjointe du G5 Sahel, des 5 pays de la zone, elle n'est encore pas à la hauteur pour prendre la relève, il faut l'admettre. Mmh. Et puis ça se voit quand on prend l'exemple de la base de Gao, il y a 2 ans c'était du sable. Aujourd'hui, une zone aéronautique, une zone mécanique, une zone vie qui est immense avec des tentes, des algéco climatisés, etc. Il y a un entrepôt frigorifique immense qui va être construit. Donc oui, très clairement, sur ces indices-là, la France est partie pour rester.
Ce qui vous donnera l'occasion de revenir. Franck Cognard, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Gilles Lucky sur France Inter. The Wonderwear.
There are flowers in my room and it don't need a job. They just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money. They heal or try to stay side by side, but it's so hard. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's someone behind and it's guiding my steps. Up and down the life stairs helps me thereby living again. And I'm a-walking all that day, day after day. But it's okay, I'm on my way. Wandering again from the west to the east. I'll try to resist, but it's so hard not to fall. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's some
La chanson s'appelle The Wanderer. Jill is lucky sur France Inter. Corinne Pellissier est là.
3, 2, 1, Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier ce soir. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Mon ami poilu, je vous le signale, vous salue également. Voilà, comme ça c'est fait, vous voilà prévenus. C'était l'un des événements du Festival de Cannes la semaine dernière. Corinne, Chewbacca, donc le bien nommé, et Han Solo, héros de la série Star Wars, sur le tapis rouge pour présenter en avant-première européenne le dernier né des studios Disney. Ça s'appelle Solo, comme Han Solo tout seul. Le film sort aujourd'hui chez nous. Il nous emmène sur les traces du plus célèbre mercenaire de toute la galaxie. Extrait et on se retrouve après.
I'm a driver. And I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think? Well, what do you know?
Who are these guys?
If you
come with us, you're in this life for good.
Ah, quelle efficacité dans la bande-annonce. Corinne, on va pas se mentir, on peut pas dire que vous attendiez ce nouvel épisode comme le Messie. Vous n'êtes pas fan hardcore, contrairement à moi. Donc attention, mais vous avez été finalement un peu capté, j'ai l'impression, non ?
Eh bien, c'est-à-dire que l'aventure avait plutôt mal commencé. Deux réalisateurs, Phil Lord, Chris Miller, virés en cours de route pour divergences créatives, remplacés par le très consensuel Ron Howard, à qui l'on doit notamment le Da Vinci Code. Un comédien quasi inconnu, Alden Ehrenreich, absolument pas ressemblant avec Harrison Ford, qui a incarné pendant 30 ans le personnage. Et puis, des fans inconsolables hein, depuis la tragique disparition d'Han Solo dans Le Réveil de la Force en 2015.
Mais un film, quand même, Corinne, qui remplit les fonctions bah, qui sont les siennes, hein.
Alors déjà remplir le tiroir caisse hein, avec des fans conquis d'avance qui n'hésiteront pas à payer pour découvrir leurs personnages préférés dans de nouvelles aventures et qui vont permettre ainsi de continuer à exploiter la marque à moindre frais avec dans ce nouvel épisode moins de personnages, moins de décors, moins de batailles dans l'espace. Si le film devait se planter au box-office, ça ne mettrait pas vraiment la franchise en péril. Disney table déjà sur une toute nouvelle trilogie. Et puis, est-ce que les fans attendent par-dessus tout, c'est d'être éclairés sur les années de jeunesse d'Han Solo sans que l'on vienne pour autant saccager l'héritage de l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Séduisant, charismatique, cabotin, téméraire, fonceur, mais honnête. Voilà ce qui plaît, voilà pourquoi Alden Ehrenreich a voulu incarner Solo depuis qu'il est tout petit.
Il met toujours beaucoup de cœur dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est le plus humain. En plus, c'est un personnage marrant, avec son humour, sa dégaine. Quand j'étais petit et que je regardais Star Wars, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette scène où il sauve Luke. J'ai vraiment étudié le personnage de près pour en extraire tous ces détails qu'il fallait que je m'approprie, comme une seconde nature. Parce qu'au moment du tournage, il faut pouvoir s'en libérer. Il y a tellement d'aspects techniques à avoir en tête, ça peut vite devenir un fardeau. Mais au final, ce qui m'a fait le plus plaisir ici, c'est de savoir qu'Harrison Ford a vu le film deux fois et qu'il l'a aimé. C'est la plus belle des récompenses, à la fois pour moi et pour tous ceux qui ont travaillé sur le film.
L'intrigue se situe donc juste avant l'épisode 4 de la saga, avant donc le tout premier épisode tourné par George Lucas en 77, juste avant aussi que le leader de l'Alliance Rebelle ne rejoigne la planète Tatooine. Alors en attendant peut-être deux nouveaux spin-offs autour d'Han Solo, vous saurez tout sur ses origines, son nom, comment il a gagné le Faucon Millennium et la manière surtout dont il a rencontré Chewbacca, enfin traité ici comme un personnage à part entière et pas comme une grosse peluche.
Visiblement, ils sont nombreux et carrément d'accord avec ce que vous venez de dire, Corinne Pellissier. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Allez, beaucoup moins de cheveux, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four. Jean-Marc, je vous laisse pas répondre. L'Amérique latine est engagée dans un grand cycle électoral. Dimanche dernier, évidemment, c'était le Venezuela. On en a parlé ici même. Dimanche prochain, c'est la Colombie. Ça va continuer dans les mois qui viennent. Et ces dernières années, le continent, semble-t-il, s'est engagé dans un virage à droite, en fait. Mais dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, vous vous dites, eh ben, pas du tout. C'est une idée reçue. L'Amérique latine est très loin d'avoir viré à droite.
Alors, c'est vrai que depuis 2015, on s'y est habitué. Les pouvoirs de gauche qui avaient dominé le début du siècle sur presque tout le continent passent à la trappe les uns après les autres. Macri en Argentine, Kuczynski au Pérou, Piñera au Chili. À chaque fois, élection d'un président de droite ou de centre-droit depuis 3 ans. Cerise sur le gâteau, la destitution au Brésil de Dilma Rousseff, l'héritière du symbole de la gauche Lula. Et cette bascule à droite s'est souvent accompagnée de la poussée des églises protestantes évangéliques qui concurrencent désormais le catholicisme, en particulier au Brésil, en Colombie, en Amérique centrale. Elles ont imposé des débats sur l'avortement, le mariage homosexuel. Et au Chili, pour prendre un exemple, 4 des conseillers politiques du président Piñera sont des pasteurs évangéliques. Bref, début 2018, on se disait, la droite va enchaîner à la faveur d'une ribambelle de scrutin présidentiel, puisque d'ici à la fin de l'année, les 2/3 des 650 millions de latino-américains se seront rendus aux urnes. On se disait ça, et puis en effet, c'est pas si simple.
Donc ce que vous nous dites, c'est que la gauche en Amérique latine n'est pas morte.
C'est ça. Citons rapidement le succès du centre-gauche il y a un mois au Costa Rica. On va passer rapidement là-dessus, même si c'est un cas intéressant. On en avait parlé d'ailleurs ici même. On va passer également sur le cas du Venezuela, qui a voté il y a 3 jours, parce que le scrutin, visiblement entaché de fraude, ne dit pas grand-chose de la volonté de la population. Il montre surtout que l'ancienne révolution, pour le coup de gauche, ou se revendiquant comme telle d'Hugo Chavez, s'est transformée en la tyrannie d'un homme qui s'appelle Nicolas Maduro. Il y a plus révélateur et intéressant. D'abord, la Colombie. 36 millions d'électeurs aux urnes dimanche prochain, dans un pays qui a toujours, pour le coup, été à droite. pourtant la lutte contre la guérilla des FARC a dicté l'agenda politique pendant 40 ans. Alors cette fois encore, disons, le candidat conservateur Ivan Duque, pas favori, mais il pourrait être contraint à un second tour par son rival de gauche, Gustavo Petro, l'ancien maire de Bogota. Et ça, un tel ballotage en soi, ça serait un événement pour la Colombie. Ensuite, il y a le Mexique. Là, le vote est prévu dans 5 semaines, le 1er juillet. C'est le grand voisin des États-Unis, le Mexique, évidemment. 130 millions d'habitants, 2 fois la population de la France. Et le grand favori dans les sondages, c'est le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador. On le surnomme AMLO, ce sont ses initiales. Il a déjà échoué 2 fois, mais ce coup-ci, il caracole en tête. Et il est aidé indirectement, faut bien le dire, par la radicalité de Donald Trump sur l'immigration. Et on pourrait ajouter les 2 autres ténors sud-américains. Le Brésil, évidemment, qui va voter début octobre. Lula est en prison, on le sait, condamné pour corruption, il est derrière les barreaux depuis 1 mois, mais il n'a pas renoncé à se présenter et depuis sa cellule, il reste en tête des intentions de vote. Et puis l'Argentine, où le président de droite libérale, Mauricio Macri, on citait son nom tout à l'heure, est mal en point. Il vient d'appeler le FMI à l'aide et ça, c'est pas une décision populaire du tout en Argentine.
Donc on a bien compris, vous dites qu'on ne se droitise pas sur ce continent. En revanche, est-ce qu'on peut parler d'une vague de dégagisme comme on l'a pu voir et qu'on la voit encore d'ailleurs en Europe?
Eh bien oui, et c'est sans doute une meilleure grille de lecture que le logiciel droite-gauche. Une petite devinette, est-ce que ça, vous savez ce que veut dire l'expression « lavajato » ?
Non, mais je vois bien qu'il y a du lavage dans l'air en fait.
C'est du brésilien, ça signifie littéralement lavage express. Vous voyez ça en fait au Brésil, en particulier dans les laveries pour voitures par exemple. C'est le nom de code de l'énorme opération anticorruption qui secoue toute la classe politique du pays, dont Lula. Près de la moitié des parlementaires sont soupçonnés en gros d'avoir truqué des marchés publics. Ça a même conduit à des émissions par effet en chaîne du président du Pérou voisin, hein, Pedro Pablo Kuczynski. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que dans l'esprit des électeurs, le critère numéro un désormais, ce n'est plus droite ou gauche si vous voulez, c'est propre ou sale. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une profonde défiance, en particulier dans les classes moyennes, vis-à-vis de toutes les forme d'institution. Alors qui en profite? D'une part, ce qui semble nouveau sur l'échiquier politique, par exemple le comique Jimmy Morales qui l'a emporté fin 2015, début 2016 au Guatemala. Et d'autre part, les extrémistes, par exemple le colonel Bolsonaro au Brésil. Alors lui, c'est un ancien soutien de la dictature. Il a une phrase fétiche: un bon délinquant est un délinquant mort. Voilà, c'est dit. Il est 2e dans les sondages. Donc oui, c'est un peu comme en Europe. Prime à la nouveauté et prime aux extrêmes.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de rester avec nous et bonne soirée sur Inter.